France Culture.
Le journal par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle fois, des Palestiniens rassemblés près d'un centre de distribution de nourriture meurent sous des tirs israéliens. Il y aurait, selon les secours palestiniens, au moins 53 morts. Nous joindrons notre correspondante Alice Moreno. La confrontation militaire entre Israël et l'Iran se poursuit. Le site pilote d'enrichissement d'uranium de Natanz a été détruit, du moins dans sa partie en surface. Est-il vraiment possible d'anéantir le programme nucléaire iranien? Nous ferons le point avec Éric Biegala. Le conclave sur les retraites impulsé par François Bayrou va-t-il se conclure sur un blocage? Les négociations entre partenaires sociaux semblaient cet après-midi ne pas progresser, mais le Premier ministre se dit confiant, nous l'entendrons. Et puis la commission d'enquête parlementaire sur les essais nucléaires français en Polynésie souligne l'ampleur de leur impact sur la population mais aussi sur l'environnement. Nous y reviendrons avec Cécile de Kervès-Doué. Ravagée par plus de 20 mois de guerre, la bande de Gaza est toujours menacée par la famine et chaque distribution de nourriture vire au chaos. Vendredi dernier, l'ONU a dénoncé le travail de la Gaza Humanitarian Foundation, pilotée et financée par les États-Unis et Israël, la qualifiant d'échec du point de vue des principes humanitaires. Aujourd'hui, une nouvelle distribution a tourné au bain de sang à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 53 personnes ont été tuées selon la défense civile et plus de 200 blessés. Les témoins de la scène assurent que l'armée israélienne a fait feu, Alice Moreno, avec des tanks et des drones sur les civils venus chercher de la nourriture.
Les scènes sont une fois de plus terrifiantes. Un témoin a enregistré une vidéo sur laquelle on voit les corps des Palestiniens démembrés éparpillés sur le sol juste après la tuerie.
Il faut que le monde entier voit cela. Il y a des dizaines de martyrs. Des dizaines de martyrs.
Ils ont été victimes de tirs israéliens, selon les journalistes et témoins sur place, alors que ces civils venaient chercher de la nourriture distribuée par la Gaza Humanitarian Foundation, pilotée par les États-Unis et Israël. Eyad Hamawi, joint par téléphone, est coordinateur d'ONG locale dans la bande de Gaza.
Énormément de monde, des milliers et des milliers de personnes se sont rassemblées là pour aller chercher de la nourriture. Après seulement 10 minutes d'ouverture de la distribution alimentaire, ils l'ont fermée et les drones et les tanks israéliens ont tiré sur les gens.
La GHF n'est qu'une illusion, une machine à tuer, selon lui.
Ils pourraient laisser les Nations Unies gérer, ils ont une excellente connaissance du terrain. La nouvelle GHF est une illusion pour notre population et la communauté internationale doit faire cesser ce chaos.
Les blessés ont été évacués vers l'hôpital Nasser, débordés et sous ordre d'évacuation. Les équipes médicales opèrent donc dans l'urgence et l'angoisse d'une nouvelle attaque israélienne. L'armée israélienne assure quant à elle qu'une enquête est en cours.
Alice Moreno, depuis vendredi, l'armée israélienne procède à des frappes sans précédent sur l'Iran, avec l'objectif affiché de faire tomber le régime. Elle affirme avoir tué la nuit dernière Ali Shadmani, présenté comme la personne la plus proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Et les frappes aériennes se poursuivent pour la cinquième journée consécutive, dans l'ouest de l'Iran, où se trouveraient plusieurs sites de missiles et de drones, mais aussi, toujours, à Téhéran. Sandrine Etoua-Andeg a recueilli des témoignages d'habitants de la capitale. Si beaucoup se sont résolus à fuir, pour d'autres, partir est impossible.
Par crainte de se retrouver coincé dans les embouteillages à la sortie de Téhéran, Armin a repoussé plusieurs fois son départ, mais hier soir, on a reçu un message nous demandant d'évacuer Téhéran. Ça nous a effrayés, on a choisi de partir en voiture vers le nord où on a une maison. On a d'abord cru qu'on mettrait plus de 15 heures, finalement ça a pris 5 heures. L'informaticien de 24 ans estime avoir eu de la chance, il a rempli quelques sacs. Tout est allé très vite, on a assemblé nos affaires en se disant que notre maison ne serait peut-être plus là à notre retour. Ça fait peur, mais je suis content que nous soyons partis. Assal se dit elle aussi soulagée de vivre dans le nord du pays, mais angoisse pour ses proches. Beaucoup de mes amis veulent quitter Téhéran. Certains ne le peuvent pas. D'autres sont coincés dans la circulation ou n'ont plus d'essence. Mes beaux-parents voudraient partir, mais c'est impossible car mon beau-père est très malade. Il ne supporterait pas un long trajet en voiture. Comme Armad qui a décidé de ne pas quitter son appartement du centre-ville où il vit seul. Je n'ai pas d'autre endroit où aller, pas de famille qui peut m'accueillir et pas d'argent pour une location ou un hôtel. Et malgré la menace d'un bombardement, il dit autant préférer rester rester chez lui plutôt que de vivre dehors comme un sans-abri.
Israël veut empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique qui a visé les installations iraniennes d'enrichissement nucléaire de Natanz dans le centre du pays. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, le site est détruit en surface et il y aurait également des impacts directs sur les salles souterraines qui contiennent des milliers de centrifugeuses. Mais pour détruire le programme nucléaire iranien, les Israéliens auraient besoin d'armes spéciales, les bombes à pénétration les plus puissantes qui existent. Or, seuls les Américains en disposent, Eric Biegala, et s'ils décident de rentrer dans cette guerre, rien ne garantit totalement le succès de ce type de bombardement.
On l'appelle officiellement la GBU-57, c'est-à-dire unité de bombardement guidé numéro 57. Mais tout le monde l'appelle la MOP pour Massive Ordnance Penetrator, c'est-à-dire engin de guerre de pénétration massif. Une bombe capable de traverser des dizaines de mètres d'acier, de blindage, de terrain très dense et de béton armé avant de faire explosion. 6 mètres de long, 13 tonnes et demie, dont seulement 2,5 tonnes de charge explosive. Le plus lourd dans cette bombe, ce sont les alliages et les aciers qui sont censés pénétrer justement les défenses les plus durcies d'un adversaire. Officiellement, de sources diplomatiques israéliennes, on assure n'avoir pas demandé aux Américains qu'il leur soit livré la moindre de ces MOP. De toute façon, seuls 2 types d'avions sont capables de lancer ces engins. Les bombardiers stratégiques américains B-52, le vétéran de la guerre froide, ou le bombardier furtif B-2, et les Israéliens n'en disposent pas. En revanche, les Américains, eux, ont installé quelques-uns de ces bombardiers, des B-52, sur leur base de Diego Garcia, dans l'océan Indien, à 5000 km du centre nucléaire iranien de Natanz, largement à portée du rayon d'action d'un B-52. Capacité de pénétration de ces bombes MOP jusqu'à 60 mètres de profondeur avant explosion. Mais les Iraniens ont très profondément enterré leurs installations nucléaires, entre 80 et 100 mètres sous la montagne, près du centre de Natanz, peut-être plus profond encore pour l'autre site d'enrichissement, celui de Fordow. En juin, le patron de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Raphaël Grossi, confiait au Financial Times avoir visité des installations nucléaires iraniennes descendante à près de 800 mètres sous terre. Il faudrait nombre de ces MOP pour en venir à bout.
Eric Biegala. Ce soir, la télévision d'État iranienne annonce une nouvelle vague d'attaques contre Israël, attaques de drones et de missiles. En Suisse, 2 semaines après la destruction du village de Blatten par la chute d'un glacier, les habitants de la vallée du Lütschental sont encore déboussolés par ce qui leur est arrivé. Le village a été rayé de la carte, des monceaux de glace et de roches bouchent la vallée. Et maintenant, où reconstruire? Dans une région montagneuse qui subit encore plus qu'ailleurs les effets du réchauffement climatique, la question est complexe. Écoutez le reportage de Jérémy Lanche.
Le glaciologue Mathias Huss a l'habitude de percer des poches d'eau quand il fait un forage à la belle saison sur un glacier. La première couche de glace soumise aux rayons du soleil est toujours un peu plus gorgée d'eau, mais il n'empêche, le glacier du Rhône fait peine à voir en ce mois de juin.
Ce qu'on remarque quand on vient ici, c'est toujours combien ça a changé depuis la dernière fois. Alors souvent, quand on revient mi-juin, la langue est encore partiellement couverte de neige, mais maintenant ce sont déjà les conditions été, la perte de glace a déjà commencé.
Chaque année, le glacier lâche entre 5 et 9 mètres d'épaisseur. Un gigantesque lac d'eau de fonte s'est formé à sa base, mais aussi impressionnant que peut être son retrait, il ne menace pas directement les villages en contrebas, comme le glacier du Birch qui a pulvérisé le village de Blatten.
La situation à Blatten, c'est exceptionnel. Par exemple, le glacier du Rhône ne pourrait pas s'écrouler comme ça. Mais avec le changement climatique, il y a plus de situations critiques qui peuvent se développer. C'est possible qu'on doit s'habituer à ces événements.
Blatten, ce nom est désormais connu dans le monde entier. Des centaines de journalistes suisses et étrangers ont accouru juste après la catastrophe pour parler de ce premier village en Europe rayé de la carte par un glacier. 3 semaines après le drame, Fernando Lehner a encore de la peine à trouver les mots.
Personne ne croit qu'une catastrophe comme maintenant s'arrive. C'était pour nous aussi, pour moi, c'est un choc. Et c'est pas facile de parler.
Ce responsable de l'état-major de crise de la vallée du Lütschental l'assure cependant, tout le monde ici pense déjà à la reconstruction. Elle commencera dès que l'eau qui a rempli le village de Blatten sera évacuée et le terrain stabilisé.
Naturellement, nous voulons reconstruire Blatten. La question maintenant, c'est où est-ce que c'est possible? La priorité absolue, c'est de refaire la route. Et on y travaille déjà. Il faut pouvoir rétablir rapidement les infrastructures, ramener l'électricité, l'eau et tout le reste.
Le maire de Blatten souhaite que le village soit totalement reconstruit d'ici 2030. C'est un projet ambitieux mais réaliste, affirme l'élu. Il peut compter sur le soutien du canton du Valais. Il a débloqué 10 millions de francs suisses pour le village. Mathias Reynard est le président du gouvernement valaisan.
On va pas se mentir, ça va pas être simple. Il n'est pas du tout certain qu'on puisse reconstruire le village tel quel au même endroit. Mais on veut pas que les régions de montagne se vident.
Reconstruction souhaitée et souhaitable donc, mais qui pose question dans une région où les catastrophes naturelles sont très fréquentes. Le drame de Blatten doit servir d'électrochoc, estime le chef de l'exécutif local.
Le faux débat aujourd'hui, ce serait de dire « Mais est-ce que Blatten, ça serait pas quand même arrivé sans le dérèglement climatique et autres ?» Mais bon Dieu, ouvrez les yeux. On passe notre temps à sauter d'une catastrophe à l'autre. À côté de Blatten, il y a plein d'autres petit Blatten.
Et quelques jours après l'effondrement du glacier dans une vallée voisine, une lave torrentielle coupait totalement l'accès à plusieurs hameaux. Des hélicoptères ont dû être déployés pour ravitailler les habitants.
Jérémy Lange, correspondant en Suisse de RFI et France Culture. Le conclave sur les retraites doit s'achever ce soir. Les négociations entre partenaires sociaux ont permis d'avancer, notamment sur la question des femmes, mais semblent à présent bloquées. Malgré tout, François Bayrou se dit confiant. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a été interpellé par Boris Vallaud, le patron du groupe socialiste, qui l'a menacé de censure si aucun texte n'était présenté au Parlement à l'issue du conclave. Écoutez la réponse de François Bayrou.
J'ai avancé l'idée et proposé que les partenaires sociaux se saisissent de cette réforme des retraites pour, s'ils se mettent d'accord, l'améliorer. Je crois qu'il y a des marges d'entente, je crois qu'il y a un chemin pour que représentants des entreprises et représentants des salariés trouvent un accord. Cette négociation est en cours à l'heure où nous parlons. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura évidemment pas. J'ai dit à la première minute, inutile d'agiter les doigts inutilement, je dis que s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme telle qu'elle a été adoptée qui s'appliquera.
Le Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale. La Poste devient la première entreprise condamnée pour manquement au devoir de vigilance. Depuis le 27 mars 2017, la loi oblige les groupes de plus de 5000 salariés à publier un texte susceptible de prévenir les risques environnementaux et atteintes aux droits humains que pourraient engendrer leurs activités. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
La Cour d'appel de Paris confirme la décision de première instance de décembre 2023 qui a estimé que le plan de vigilance de la Poste n'était pas conforme aux exigences légales, car imprécis.
C'est un collectif de la plateforme Chronopost d'Alfortville qui, en 2019, alerte Sud PTT des sans-papiers, sous-traitants de l'entreprise de Richebourg, travaillent de nuit, tâches difficiles, horaires ingrats, et ce n'est pas un cas isolé. En 2021, après plusieurs mouvements de grève, le syndicat assigne la Poste devant le tribunal sur la base de la loi du 27 mars 2017. Le tribunal qui constate que la cartographie des risques établie par la direction, je cite, ne fait nullement ressortir l'existence de risques liés au travail illégal. Nicolas Calépides, secrétaire fédéral à Sud PTT.
La Poste n'y a pas cru, quoi, en fait. Les premiers courriers qu'on a reçus de la Poste, c'était de dire non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné par ce qui se passe dans les filiales. Et encore aujourd'hui, on est sous un régime de comité socio-économique où on devrait parler de devoir de vigilance. Et ben, par exemple, moi, je suis un expert chez SUTD, j'ai été interdit de séjour dans ces comités. Ça veut dire qu'il y a une espèce de négation de ça et qui est complètement assumée parce qu'on ne peut pas parler de droits humains et de liberté fondamentale quand on veut parler tranquillement de compétitivité.
Antonin Lévy, l'un des avocats de la Poste, souligne que l'arrêt de la Cour ne comporte ni condamnation économique, ni astreinte financière et ajoute que la Cour a réécrit le jugement de décembre 2023 en appréciant plus finement les obligations des entreprises. La Poste a travaillé, s'est adaptée, poursuit-il. Le groupe plaide d'ailleurs, Aurélie, pour l'application de la loi de 2017, tout en souhaitant qu'elle ne fragilise pas les conditions de concurrence au sein de l'Union européenne.
Mathieu Laurent, c'est probablement le dernier épisode judiciaire de l'affaire Fillon qui a coûté cher à l'ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle en 2017. François Fillon reconnu coupable pour les emplois fictifs de son épouse Pénélope, mais qui voit aujourd'hui sa peine réduite à 4 ans de prison avec sursis, Florence Turme.
4 ans de prison avec sursis, à 71 ans, François Fillon échappe donc au bracelet électronique, cette épée de Damoclès qui pesait sur lui depuis sa première condamnation en juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris. 2 ans de prison ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Il fait appel, tout comme son épouse Pénélope et son ancien suppléant Marc Joulot, eux aussi reconnus coupables dans cette retentissante affaire de détournement de fonds publics. La cour confirme la culpabilité, prononce des peines moindres, mais un enferme encore pour François Fillon. Décision partiellement annulée par la cour de cassation. Elle estime que cette peine de prison ferme n'est pas suffisamment motivée, renvoie le dossier à une cour d'appel composée d'autres magistrats. Lors de l'audience qui s'est tenue en avril dernier, l'avocat général avait requis 4 ans d'emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Réquisition suivie sur l'essentiel, la peine d'emprisonnement est ramenée à 5 ans d'inéligibilité qui reste, François Fillon l'avait déclaré à la barre, une blessure morale tout en affirmant n'avoir désormais plus aucun projet de retour en politique. Ce soir, par l'intermédiaire de son avocat, l'ancien Premier ministre s'estime soulagé de savoir que le bracelet électronique ne sera pas appliqué et que cette affaire arrive à son terme. Cela sous-entend qu'il n'a pas l'intention d'engager un autre pourvoi en cassation. Ce serait donc la fin de ces 8 années de procédure. François Fillon a par ailleurs commencé à payer les 800 000 euros de dommages et intérêts qu'il a été condamné avec son épouse et son ancien suppléant à rembourser à l'Assemblée nationale.
Florence Sturm, la commission d'enquête parlementaire sur les essais nucléaires français en Polynésie rend son rapport. 45 préconisations pour tenter de soigner le traumatisme laissé chez les 300 000 habitants de la Polynésie par les 193 bombes, dont certaines en plein air, que la France a fait exploser autour de Mururoa dans le Pacifique entre 1966 et 1996. Ces essais ont laissé des traces durables en Polynésie avec des conséquences sanitaires et environnementales. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Ce rapport parlementaire préconise justement de faire la lumière sur les risques que les essais nucléaires continue de générer pour l'environnement comme pour la population, Cécile.
Oui, sur les 193 bombes nucléaires qui ont explosé en Polynésie, 147 ont été souterraines, d'abord sous Mururoa, puis au large, parce que l'impact de l'explosion avait fait s'effondrer une partie de l'atoll, provoquant une vague de submersion. Et aujourd'hui encore, la population continue de craindre un tsunami qui les engloutirait. Mais c'est peu probable, répond l'océanographe Serge Plane, spécialiste des récifs coralliens.
Effectivement, il y a eu un effondrement sur une zone de l'atoll, mais qui a été très marginal. Ça reste quand même maintenant un risque qui est assez limité, dans la mesure où il n'y aura plus, je dirais, de grosses secousses qui peuvent entraîner de nouvelles failles.
Le risque environnemental n'est donc pas le tsunami, mais les déchets nucléaires qui ont massivement été jetés dans la mer. Alberto Bono a fait son service militaire en Polynésie au début des années 70 et il s'en souvient.
Les résidus étaient recueillis dans des fûts et ces fûts étaient ensuite émergés donc dans le lagon, comme beaucoup de matériel et qui, disons, étaient contaminés. Après, ils les ont non plus lagonnés, mais dans l'océan.
Car il y a aussi tous les déchets indirects, ferraille, textile, construction, eux-mêmes rejetés en mer, là où la population allait pêcher. Michel, qui habite au Gambier, s'interroge.
Là, c'était le truc sur le récif et je vais pêcher le poisson dedans. C'est pas contaminé.
Alors chaque année, le commissariat à l'énergie atomique effectue des prélèvements qui sont publics et rassurants, explique le contre-amiral Guillaume Pinget.
Tout le nettoyage a été fait. Les résultats de l'ensemble de ces mesures de surveillance montrent que les traces de radioactivité artificielle sont extrêmement faibles dans les tolérances de l'OMS.
Est-ce qu'on pourrait imaginer une fuite massive ?
Aujourd'hui, ça paraît très fortement improbable. Donc, toutes les mesures de surveillance sont faites qui montrent qu'il n'y a pas de migration.
Sauf que contrairement à ce qui avait cours dans l'Hexagone, en Polynésie, on ne sait pas toujours où sont ces déchets. Une bombe à retardement, donc, que dénonce l'association 193 et son vice-président, frère Maxime.
Où est-ce qu'on a immergé justement ces déchets où il y a du plutonium et du césium. Que ce soit à Mururoa, que ce soit à Hao. Et donc, il faut sécuriser ces endroits-là parce que dépolluer, c'est impossible. Mais il faut dire la vérité.
Et la commission parlementaire demande donc que le commissariat à l'énergie atomique ouvre ses archives sur ce sujet.
Cécile de Kervas-Doué, je renvoie nos auditeurs vers votre grand reportage Polynésie française sortir du traumatisme nucléaire. On peut l'écouter sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et puis, nous apprenons la mort de l'immense pianiste autrichien Alfred Brendel à l'âge de 94 ans. Il s'est éteint ce matin à son domicile de Londres. Sir Alfred Brendel avait été anobli par la reine d'Angleterre en 1989. Interprète majeur de Schubert, Mozart, Haydn, Liszt, Beethoven, que l'on entend à l'instant. Il ne jouait plus depuis 2008 à cause de problèmes d'arthrose. Pour lui, il existait deux sortes d'interprètes, ceux qui éclairent l'œuvre de l'extérieur et ceux qui l'illuminent de l'intérieur. Alfred Brendel faisait sans aucun doute partie de la deuxième catégorie. Comme aujourd'hui, le temps sera très ensoleillé demain et les températures vont encore monter, comprises entre 10 et 20 degrés au petit matin. Elles atteindront 27 à 33 degrés l'après-midi sur la majeure partie du pays, jusqu'à 36 sur le Languedoc-Roussillon.